Je vais peut-être me retourner maintenant vers deux acteurs plus spécifiquement du monde agricole. D'abord vers vous, Guillaume, bien sûr, tout le monde vous connaît dans les responsabilités que vous avez assumées à la présidence de la FNSEA, dans l'héritage de Raymond Lacombe. Mais aujourd'hui, vous êtes, si je ne me trompe, le premier agriculteur qui est accédé à la responsabilité de la présidence en tant qu'indépendant du conseil de la FAO. C'est une première, non ?
Oui, c'est tout à fait une première, comme premier agriculteur, mais aussi comme première personne de la société civile, ce qui est une signification très importante, parce que j'ai été élu par les 191 pays, c'est-à-dire les ambassadeurs ou les représentants des ambassadeurs, donc j'ai dû faire campagne auprès des ambassadeurs, et ils ont accepté, signe d'évolution, d'élire quelqu'un de la société civile. C'est le premier point positif de ma mandature.
Investir d'une responsabilité comme celle-là, un rude militant agricole, n'a fait peur à personne ?
Ben, sans doute que si, mais le gouvernement français m'a fait confiance en me présentant. Puis ensuite, j'ai dû, comme entre guillemets, me coltiner un candidat britannique, assisté en plus d'une gambienne qui était aussi candidate. Nous sommes partis avec une petite équipe à zéro et nous avons expliqué notre projet. Et je dois le dire aussi, la conception de développement international français et francophone avec les Anglais n'étant pas tout à fait la même, je crois que c'est là-dessus que j'ai gagné. Donc ils avaient gagné les Jeux Olympiques, nous on a gagné la FAO, mais je crois que c'est aussi important pour l'avenir.
Vous voyez comme Québécoise qu'il y a des antagonismes historiques qui sont toujours présents dans notre actualité.
Mais je dois dire que la victoire a été difficile, et les 6 premiers mois après aussi, parce que... On m'en a fait quand même un peu baver, d'autant plus que mon anglais n'était pas parfait, loin s'en faut.
À vaincre donc, sans péril, on triomphe sans
tout
gloire.
Tout à fait. Ah,
donc vous l'avez emporté, c'est l'essentiel.
Alors, si vous me permettez de rajouter par rapport à cela, je le vois aussi comme un engagement de ce qui a été fait depuis l'après-guerre, au niveau de l'engagement professionnel de tous ceux qui avons œuvré dans la société civile agricole plus particulièrement, dans ce syndicalisme qu'on a trop souvent accusé de co-gestionnaire au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça que je l'ai perçu, c'est comme je l'ai travaillé avec Raymond et avec Michel et d'autres, nous contestons, nous proposons, mais surtout nous nous engageons. Et ça je crois que dans le contexte actuel c'est ça qui est sans doute le plus fort, c'est-à-dire que contester, je n'allais pas dire que c'est facile, proposer aussi, mais malgré les résultats qui ne sont pas toujours satisfaisants après négociation avec les pouvoirs publics, nous nous sommes engagés pour mettre en place ces applications. C'est-à-dire que nous sommes des vrais paysans, nous savons qu'il faut semer pour récolter et que parfois il faut ressemer pour récolter qu'une fois malgré tout.
Alors vous nous avez fait l'amitié de suivre tous les débats de la matinée. Vous vous rappelez, comme un certain nombre d'entre nous, ce qu'était finalement, comment dirais-je, la saine et positive inquiétude de responsables agricoles, comme ceux qui ont été à l'origine de Sol et Civilisation, par rapport à l'évolution du monde rural. Quelle a été votre impression en regardant un peu ce qui se dégageait des échanges de ce matin, je dirais, en reconnaissance de la ruralité telle qu'elle devient, mais ensuite nous parlerons aussi des tensions qu'elle connaît encore.
Oui, moi je pense que de toute façon, ça a été dit aussi un peu ce matin, il n'y aura pas de milieu rural artificiel. Il faut avoir un milieu rural qui est de la vie économique. Tenir un milieu rural vivant sans vie économique, ça ne peut pas durer. Alors, c'est vrai pour les agriculteurs dans le cadre de l'exercice de leur profession, mais c'est vrai aussi dans le cadre de l'exercice de leur vie familiale. Moi, quand j'ai fait les campagnes électorales, chambre d'agriculture à plusieurs reprises, on a fait toute la France. J'ai vu des femmes d'agriculteurs qui faisaient 80 km le matin, 80 km le soir pour avoir un peu de travail parce qu'il n'y en avait pas. Donc, la vie locale est importante. Le boulanger, le mécanicien, alors, tout en proximité, on ne peut pas tout avoir, mais je crois que c'est essentiel. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et sans doute que le monde agricole l'a découvert un peu sur le tard. Quand je dis sur le tard, c'est-à-dire pas tout à fait au moment de la révolution de la mise en place de l'agriculture moderne, où nous nous sommes sentis un peu trop les maîtres du jeu rural. C'est-à-dire, nous occupions le territoire, nous avions eu des batailles à faire avec, à certains moments, par le passé, la forêt, puis avec nos propriétaires, nous étions exploitants, et puis la société nous disait, fournissez des bras pour l'industrie, donc il y en a qui partaient, puis les autres, en 1953, nous avions encore des tickets de rationnement dans notre pays. Il fallait produire. Donc, on a produit et donc, on ne s'est pas trop occupé des autres. Et puis, on n'a pas fait trop attention. C'est qu'avec l'émigration, on est devenus moins nombreux. Le milieu rural s'est élargi. Et puis, il y a eu une période entre les années, je vais dire, entre 70 et 90, où nous avons été déficients, absents de la vie locale, suffisamment engagés au point de vue politique et municipal. Je pense que ça s'est rééquilibré un peu malgré notre minorité. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de milieu rural vivant sans des synergies entre tout le monde. Et donc, avec Sol et Civilisation, moi j'ai participé un petit peu au départ à suivre ce que faisait Raymond, mais dans le cas du groupe du monde rural, ça a été aussi la grande innovation, c'est de mettre tous les acteurs du monde rural à discuter entre nous, de voir ce que nous pouvions faire. Et je me souviens quand même que nous avons fait des actions importantes lorsque nous avons dû réagir très fortement face à la tentative qui était de scléroser, de mettre sous une cloche tout le milieu rural avec toutes les zones naturelles. On a pu expliquer les choses. Donc je crois que la deuxième chose, c'est de développer des synergies. Puis je dirais que où je suis aujourd'hui, je vais dire que ça ne change pas, quoi. Sauf que le village est un peu plus grand, mais c'est exactement les mêmes choses. Et si dans une relation ville-campagne, milieu rural, des néo-ruraux et avec les autres, il y a une relation de supériorité ou de manque d'équilibre, ça ne dure pas. Eh bien, au niveau mondial, c'est la même chose. Et puis, le niveau mondial connaît exactement les mêmes évolutions que connaît le milieu rural. Il y avait les dominants et les dominés pendant de nombreuses années, les pays développés riches, et puis les pays en développement pauvres. Puis aujourd'hui, les pays riches sont 20%, les pays pauvres sont 20%, puis c'est les 60% qui commandent. Et donc, si on ne change pas de comportement, on n'y arrivera pas. Et donc, pour le milieu rural qu'on a évoqué ce matin, si on ne fait pas des alliances avec ceux qui vivent peut-être pas toujours de façon économique dans le milieu rural, mais qui sont quand même présents ici, on aura des problèmes. Donc je crois que c'est toute une question de relation et ce que nous faisons aujourd'hui contribue justement à améliorer le dialogue.
On va revenir après sur la responsabilité alimentaire qui est posée au monde agricole spécifiquement, mais on va rester quand même un peu, je dirais, sur ces tensions qu'il ne faut pas exagérer parce que c'est un peu facile et ça, je trouve que ce matin, le président du Conseil économique et social nous a bien mis en garde contre tout ça. Il ne faut pas accentuer les oppositions, les difficultés et conforter les intégrismes en quelque sorte. Mais je me rappelle, je l'ai évoqué récemment avec Henri de Benoît à l'occasion de la disparition de Gérard de Caffarelli. Je l'avais rencontré dans le train entre Paris et Saint-Quentin les jours même où avait été décidée la création de Sol et Civilisation avec Raymond Lacombe. Et il m'avait expliqué longuement que pour un militant comme lui, qui avait été dans vos responsabilités à la VNSEA, disons à l'époque gaullienne, des grandes lois sur l'agriculture, il y avait aussi le sentiment que la logique des productions, la logique des marchés, pourrait être elle-même un élément qui altérerait quelques-unes des valeurs dont le monde rural se trouvait portable. Et que donc, la mission de Sol et Civilisation, c'était également d'avoir une vigilance là-dessus. Alors là, je vais plutôt destiner la question à Pierre-Olivier Drège, puisque vous êtes maintenant en responsabilité d'un grand secteur de production qui est celui des céréales. Il faut être clair, hein, nos grandes lois agricoles, lorsqu'elles ont été faites dans un contexte où nous n'étions pas en autosuffisance au niveau national. Il y avait donc un défi français à relever et qui l'a été et qui nous a donné une vocation aussi à affronter des marchés extérieurs. Alors évidemment, si je vais dans l'ère du temps, et si j'évoque le monde des céréaliers, il y en a quelques-uns dans la salle, c'est peut-être dangereux d'évoquer des images qui sont véhiculées dans l'opinion publique. C'est je fais ma récolte, je passe sur mon ordinateur, je me mets sur la bourse de Chicago, et l'affaire est bouclée. Ce n'est pas tout à fait l'esprit de nos débats d'aujourd'hui. Alors, ça vous choque, Pierre-Olivier Drège, ces images qui sont encore véhiculées dans l'opinion et comment peut-on leur faire un sort, et leur faire un sort pas par des artifices de communication, mais en posant la réalité des problèmes?
Alors, effectivement, c'est une image d'Épinal qui est largement colportée et que nous cherchons véritablement à changer en modifiant les termes du débat. Tout d'abord, il y a une réalité qui est connue de tous ceux qui sont dans le milieu rural, c'est que ce milieu rural, c'est le siège d'une chose qui est totalement moderne et qui, depuis 1987, porte un nom qui s'appelle le développement durable. Absolument, depuis 1987, c'est le rapport Brundtland que chacun connaît. Alors, on a baptisé quelque chose qui existait depuis des décennies, des siècles, des millénaires sans doute.
Depuis 1300. Vous m'avez appris quelque chose que...
Ah oui, absolument.
Alors citez-le, ça m'a beaucoup frappé quand vous me l'avez dit.
Absolument.
C'est le décret de Philippe Lebel.
Tout à fait. Et là, les présidents du groupe céréalier m'excuseront. Mais je prendrai effectivement cette référence que nous avions citée ensemble, qui s'appuie sur le secteur forestier, qui est une autre dimension du milieu rural, et qui est une ordonnance qui date du... 27 mai 1346, 14e siècle.
Donc c'est Philippe VI le Bel.
Prise par un roi de France qui était Philippe VI de Valois. Et Philippe VI de Valois, qui est plus connu pour avoir déclenché la guerre de Cent Ans, a en fait fait quelque chose de beaucoup plus important. Il a écrit une ordonnance sur le fait des eaux et forêts, qui créait les officiers des eaux et forêts, et qui a dit autre chose, qui est la suivante. J'ordonne, c'est une ordonnance, que les maîtres des eaux et forêts parcourent chaque année les forêts du royaume, les miennes, et qu'ils en déterminent chaque année les coupes et les ventes, de telle sorte que ces forêts se puissent perpétuellement soutenir en bon état. Soutenir, c'est soutenable. Soutenable, c'est sustainable. Sustainable, c'est la gestion durable, c'est le développement durable que nous connaissons et que nos amis anglo-saxons nous ont pris, si j'ose dire, et nous avons utilisé un mot qui est moins parlant, en réalité, de développement durable. Et donc, en fait, ce territoire rural, c'est la terre, non pas d'expérimentation, mais de réalisation concrète, dans sa dimension agricole, dans sa dimension céréalière, bien évidemment, dans sa dimension forestière, le schéma le plus abouti d'un développement durable qui a fait ses preuves. Et si aujourd'hui, en France, nous avons des récoltes qui ont des rendements parmi les plus élevés du monde, c'est sans doute parce que des générations et des générations de compétences d'agriculteurs ont réussi à préserver cette vision à moyen terme, cette vision du futur, et qui ont permis de conserver les sols, de conserver leur potentialité et de conserver et de développer cette production. Et donc, cette vision comme quoi l'agriculture serait non pas performante, mais serait productive au sens productiviste, c'est-à-dire avec cette tonalité qui est un élément critiquable, qui n'intégrerait pas les autres dimensions et les soucis de la société, non seulement erronés, mais battus en brèche par cette permanence du souci du moyen terme qui a été la caractéristique de tous les paysans de France et en particulier, bien sûr, des céréaliers.
Je vois que Dominique Volton prend des notes et en homme de communication, il se rend compte que ce grand débat sur la ruralité va se jouer désormais entre les producteurs tenant du développement soutenable et les intégristes de l'écologie tenant d'un développement durable intégral. Et vous allez devoir entrer dans une carrière très militante dans la position qui est la vôtre. Alors, soyons sérieux, on se rend compte que derrière tout ça, ce que nous évoquons, c'est de maintenir une économie du vivant en définitive, sur les territoires, et qu'elle doit donc avoir sa juste mesure, telle qu'elle était déjà formulée par les édits royaux au XIVe siècle.
Alors, oui, effectivement, et le risque aujourd'hui, c'est qu'il y a un mouvement de balancier avec, avec une vision qu'Anne-Claire Vial ce matin appelait monofonctionnelle, et cette dimension de nostalgie, puisque c'est le titre de cette table ronde, qui voudrait que l'on conserve, que l'on mette sous cloche et que l'on veuille maintenir en l'état sans qu'il n'y ait plus aucune évolution ce monde rural et également dans sa dimension agricole. Or, en réalité, bien sûr, il n'en est rien. Il faut qu'il y ait un projet de développement durable, bien sûr, mais qui ait une ambition. Et sans doute qu'on est à un moment où, dans le discours, dans un premier temps, et puis ensuite dans la pratique, dans la réalité, il faut redéplacer ce curseur, qui est un équilibre entre la dimension économique, la dimension production, la dimension environnementale et la dimension sociale, que ce curseur ne parte pas dans cette perspective monofonctionnelle de conservation, mais au contraire trouve ce juste équilibre qui permette de réhabiliter, Antoine Ruffinac parlait de réindustrialisation tout à l'heure, mais de réhabiliter l'acte de production, et même pour ce qui est de la France, de produire, et de produire plus, notamment en matière de céréales, parce qu'il y a un défi, un enjeu de sécurité alimentaire mondiale que les événements récents ont mis en évidence. Et là, en termes de territoire, il y a une question qu'il est intéressant de souligner, c'est que le territoire n'est certainement pas un lieu clos, un lieu déterminé, même si, bien évidemment, il y a un questionnement aujourd'hui pour produire et consommer local et rejouer cette dimension qui donne du sens à certaines productions qui peut-être avaient disparu avec certains éléments de mondialisation extrême. Mais ces territoires n'est pas un monde clos. Et à nouveau, Anne-Claire Vial disait ce matin l'initiative qui avait été prise de mise en communication avec d'autres territoires, notamment ceux du sud de la Méditerranée. J'étais moi-même avant-hier au Maroc, et nos partenaires marocains nous disaient « Nous avons de grands projets de développement agricole et de production dans notre pays, mais nous n'arriverons pas à nourrir notre population compte tenu de son développement. Nous avons besoin de la France, nous avons besoin de pays exportateurs, et nous avons besoin d'un pays comme la France, qui est un pays stable, c'est un pays où les producteurs, par leurs compétences jointes, s'appuyant sur des conditions pédoclimatiques favorables, ont une constance de production, et qu'ils produisent plus pour consolider cette liaison entre les deux bords de la Méditerranée, qui sont un élément absolument déterminant d'un territoire pris avec plus de recul au niveau d'un grand bassin où, au nord, et notamment en France, nous avons une capacité à produire dans le respect d'une gestion durable des territoires, et au sud, il y a un besoin permanent et une solidarité à construire.
Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre Anne-Claire Vial ce matin quand elle a parlé de son expérience sur le maïs, mais vous la rejoignez parfaitement. Absolument. Parce que dans le caractère anxiogène de l'actualité que Jean-Paul Delevoye a évoqué aussi ce matin, vous comprenez, c'est aussi toute cette évocation d'une économie insaisissable, le stress des marchés. Qu'est-ce que c'est ? Comment s'est fait un marché qui a le stress ? Mais ces messages-là, répétés en permanence, sont aussi des messages qui, quelque part, altèrent les rapports humains dans des espaces de vie. Alors, est-ce que maintenant, vous qui êtes des hommes en responsabilité dans le monde agricole, je vous pose la question à tous les deux, vous avez l'impression que vos organisations professionnelles, toutes les opérations, vont savoir concourir un peu à cet apaisement du débat qui va réconcilier sur une gestion équilibrée, sereine et partagée des territoires?
Moi, je crois que pour réussir ce que vous demandez, c'est-à-dire qu'il y ait une gestion équilibrée des territoires, il faut qu'elle soit comprise de tous ceux qui sont à l'intérieur, première chose. Deuxième chose, il faut que, pour que l'agriculture économique, productive et non pas productiviste, soit comprise par l'ensemble des populations qui nous entourent, il faut quand même recréer des liens entre agriculture et alimentation. Je m'explique. Depuis trop d'années, on a séparé la notion d'agriculture d'alimentation. On me disait « la politique agricole commune coûte cher ». Moi, j'ai toujours pensé que ce ne sont pas les agriculteurs qui ont bénéficié les premiers de la politique agricole commune, ce sont les consommateurs. Ils ont eu la quantité, la régularité, la qualité même et le prix bas. Tout ce qu'il fallait pour 0,40% du produit intérieur brut communautaire. Donc si on n'arrive pas à faire comprendre aux populations, et en Europe, en particulier aux populations du nord de l'Europe, qui n'a que faire de l'agriculture, mais est très intéressée par l'alimentation, si on ne renie pas ces liens, il y aura toujours le dilemme, les gros céréaliers qui produisent pour l'exportation, ils n'ont qu'à se débrouiller tout seuls, et les producteurs de proximité qui font de la vente directe, et ça, ça va nourrir le monde. Eh bien non, on a besoin de tout, des céréaliers, des grandes cultures, et aussi de ceux qui font la vente directe, et ça a été dit ce matin, quand on atteindra 10% ou 15%, tout confondu, et en particulier sur les productions légumières, cette proximité, ça sera bien le maximum. Donc, il y a une sorte de réconciliation à avoir. Et puis, deuxième chose, pour que ce soit bien compris, il faut aussi, et là, ça c'est le propre de la relation dans le cadre du milieu rural et avec le milieu urbain, recréer la relation biologique pour les consommateurs entre le produit qu'ils consomment et le produit que nous produisons. Les deux expériences que je donne, vous demandez à un enfant d'où vient la botte de radis, il vous dit de la grande surface. Mais ce n'est pas la grande surface qui a mis le grain de radis en terre, ce n'est pas lui qui l'a récolté, il n'a fait que le vendre. Vous demandez à un jeune d'où vient la brique de lait, le lait, vous dites de la grande surface. Mais si le lait vient de la grande surface, à quoi ça sert les vaches? Et comme il y a de beaux esprits qui disent qu'il faut supprimer toute la viande, donc supprimer l'élevage, supprimons. Donc à quoi ça sert les vaches? Puis quand on a supprimé les vaches, mais à quoi ça sert d'avoir des paysans, puisque la grande surface peut tout faire? Eh bien, on est dans cette situation-là. Et je n'accuse pas la ville, parce que même dans nos communes, nos petites communes rurales, nos jeunes enfants sont presque dans la même situation. Donc on a tout un travail à recréer entre agriculture et alimentation. Et moi, je me plais à savoir que dans ce pays, aujourd'hui, on est avec un ministère de l'agriculture et de l'alimentation auquel il ne faut surtout pas oublier de rajouter la pêche et la forêt, qui sont des deux espaces qui permettent de produire. Donc, j'allais dire, pour qu'il y ait cette reconnaissance entre territoire et vie économique, il faut qu'il y ait la compréhension de à quoi ça sert cette vie économique. Autrement, on dit qu'il faut des espaces naturels, donc la production n'en a que faire. Mais non, on vit avec ça. Alors, il y a tellement de gens qui sont autour de nous ou avec nous, qui causent beaucoup de l'aménagement du territoire, de l'écologie, de l'environnement, tout en ayant un travail fixe dans la ville, un revenu assuré, voire une résidence secondaire, sans faire de conflit. Je vis tout près des Marais Poitevins. Je peux vous en parler comme vous voulez. Il y a beaucoup plus de gens qui parlent du Marais Poitevin qui n'y vivent. Et donc, il y a une vraie activité économique de céréaliers dans le Marais Poitevin. Et on peut vivre le Marais Poitevin comme parc naturel avec une agriculture et le reste. Donc, il faut arriver à réconcilier l'économie et l'aménagement et l'environnement.
Il y a aussi le problème, les aspects du problème alimentaire mondial. Il est évident aussi, bon, je vois bien au type de protestation que vous affrontez dans votre environnement vendéen, mais il y a aussi un peu le déséquilibre qui avait été instauré en regard des pays en voie de développement sur les cultures vivrières. On sent qu'on est maintenant sur un espace mondialisé où tout s'est un peu expérimenté, où il faut trouver des pondérations, je dirais, un peu plus stables, un peu plus éthiques aussi.
Alors, moi, il ne faut pas avoir peur de le dire. nous avons, entre guillemets, je ne sais pas s'il faut dire fauté, mais nous avons été trop longtemps dans des situations que nous n'avons pas maîtrisées. C'est vrai que nous, au niveau de l'Europe, on nous a dit produire, on a mis la politique agricole commune, on a plutôt bien réussi, on a fait valoriser avec le travail des paysans, on y est allé, on a nourri la France, l'Europe, et on est allé scoltiner le marché international, avec des mécanismes que beaucoup de pays en développement devraient copier aujourd'hui et que nous devrions respecter pour qu'ils se développent au moins pendant 5 ou 10 ans. La protection frontière, la politique de stock, la politique de régulation des prix, au moins en évitant les erreurs que l'on a faites. Et puis, il est vrai que parallèlement à ça, parce qu'il n'y a pas eu que ça, on a eu l'esprit du développement de la Banque mondiale FMI, pendant 20 ans, et ce n'est pas une critique, c'est eux qui le disent eux-mêmes dans leur rapport il y a moins de 10 ans, qui a dit, écoutez, les prix au niveau mondial pour l'agrémentation, ce n'est pas cher. Donc, produisez des biens industriels, faites des devises et vous acheterez des produits alimentaires à pas cher sur le marché mondial. Et on a abandonné complètement les cultures locales et de proximité en Afrique ou ailleurs. Et puis, on est arrivé à un moment donné où ces produits ont connu des difficultés sur le marché, donc plus de rentrée de devises et plus de production locale. Et c'est comme ça qu'on a appauvri les pays d'Afrique, tout en supprimant ou en détruisant la capacité de recherche et semencière de ces pays-là, dans le même temps. Et l'exemple que je donne, c'est quand je suis allé l'année dernière à la conférence régionale en Amérique du Sud, qui était en Amérique centrale, qui était au Panama, petit pays, le Panama, quelques grands riches, beaucoup de pauvres, mais qui a acheté son alimentation à l'extérieur. Et le ministre me dit, mais voilà, moi j'ai un problème, j'achetais mon alimentation à l'extérieur, et puis du jour au lendemain, les prix alimentaires ont été multipliés par 3. Donc il s'est souvenu des cours de mathématiques qu'il avait fait en classe élémentaire, et dit, avec le même argent, quand c'est multiplié par 3, j'en achète 3 fois moins. Puis il a rajouté quelque chose, qui pour moi m'a marqué pour toujours, j'en rachetais 3 fois moins si j'en trouvais. Ce qui veut dire que si un pays, même riche, n'assure pas un minimum de sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire, on veut dire, on prend tout, mais sécurité alimentaire, il est complètement dépendant de l'extérieur, et on l'a bien vu, quand un pays ferme les frontières, la Thaïlande en 2008, alors qu'ils avaient du riz, peur d'en manquer, ferme les frontières. Ceux qui achetaient du riz, pas de riz. L'année dernière, les Russes, incendie, sécheresse, et j'en passe, ferme les frontières. L'Égypte, qui importe 90% de ses céréales, dont 25% de Russie, s'il n'y avait pas eu les stocks européens qui étaient en France à l'époque, ça aurait été peut-être la famine ou une partie de la famine dans une partie de l'Égypte. Donc, et ça a été une politique délibérée au niveau mondial de développement avec les pays en développement. C'est fini. Aujourd'hui, il faut relancer la production locale tout en faisant de la production, disons, plus importante. Il faut toutes les agricultures, il ne faut pas l'agriculture locale ou la grande agriculture, on a besoin des deux. Et la difficulté que nous avons aujourd'hui, parce que quand bien même l'Europe a abandonné ses aides à l'exportation qui détruisaient les marchés, il se trouve quand même que le problème environnemental, le problème social, le problème fiscal, qui est différent entre les différents pays du monde, fait que nous ne sommes pas tout à fait sur la même longueur d'onde, et que le poulet qui arrivait en Afrique avec les subventions européennes à un certain prix, il arrive au même prix sans subvention en venant du Brésil. Et donc là, il y a un peu de gouvernance mondiale où il faut remettre un peu d'ordre, mais on pourra peut-être en parler tout à l'heure avec le G20.
Continuons un peu dans la remise en ordre, ou je dirais dans l'apaisement un peu des esprits par rapport à toute cette démarche que l'on peut appeler une démarche de progrès. Là, je vais revenir vers vous, Pierre-Olivier Drège, parce que vous... Ingénieur, greffe, vous avez eu pas mal de responsabilités dans l'espace agricole. Vous avez été au contact à la fois de la puissance publique, à la fois des réalités économiques du monde agricole. Il y a aussi quelque chose peut-être qui fait que lorsque l'on a dû pousser les feux un peu sur relever le défi de l'autosuffisance au niveau national, on a accentué la logique des grands secteurs de production. Et je le dis devant l'ancien président de la FNSEA, il y a quand même eu, comment dirais-je, une expression accusé de ces secteurs de production et la synthèse que réclame le monde rural entre les différents secteurs n'était peut-être imparfaite. Vous êtes dans une maison qui a en particulier créé un organisme bancaire d'investissement. On a eu l'occasion de l'évoquer récemment dans une actualité qui a été un peu tumultueuse, qui avait été fondée sur un premier pacte de solidarité entre le monde de l'élevage et le monde de la céréiculture. Vous avez été aussi le patron de l'ONF et vous connaissez bien la forêt. Quand on parle de la ruralité dans toutes ses composantes de milieu de vie, est-ce que la France un jour arrivera aussi à faire la synthèse de toute la production, de l'ensemble, production forestière, élevage et culture végétale, et qu'on retrouve une espèce d'unité de tous les acteurs et les gestionnaires du vivant? C'est un doux rêve, ou c'est pour tranquilliser peut-être un peu vite les mouvements écologistes tumultueux? Je ne sais pas.
Je pense pas que ce soit un doux rêve, et surtout ça existe déjà dans cette initiative que vous avez citée et qui a conduit à un moment donné les responsables agricoles, les responsables céréaliers, saisissant une opportunité de l'histoire, de créer cette structure complètement inédite, Unigrain en l'occurrence, par une contribution qui est de l'ensemble des producteurs, l'ensemble des céréaliers, pour alimenter un fonds qui assure effectivement cette dimension transversale, cette solidarité de destin entre les agriculteurs, non seulement dans une démarche syndicale, mais dans une démarche opérationnelle, dans une démarche financière et dans une démarche de solidarité qui s'exprime réellement dans des projets. Et aujourd'hui, cette structure existe toujours, bien sûr, et elle a même été renouvelée dans ses ambitions, et en particulier, elle a comme ambition de participer, que les producteurs soient présents, participent directement avec des moyens financiers à la structuration de ce que l'on fait de la production, ce que cette production devient lorsqu'elle est transformée, et que les groupes agroalimentaires ne se constituent pas uniquement sous le jeu des intérêts et des interventions de fonds qui viennent de partout dans le monde, mais que les producteurs, au travers de cet outil, est un levier direct, un levier puissant pour avoir une influence et pour précisément organiser cette suite, ce droit de suite de leur production, et également cette solidarité entre les différentes familles de production. Et je crois que c'est mettre à l'acquis de la profession d'avoir eu cette idée, entre guillemets, de génie, qui anticipait sur les besoins d'aujourd'hui, et ensuite de l'avoir porté, de l'avoir développé et de l'avoir adapté aux réalités de notre monde globalisé d'aujourd'hui. Et je pense qu'il y a là une dimension qui, à la fois, puise ses racines dans la dimension territoriale, où précisément il y a cohabitation des différentes familles professionnelles et des différentes productions, et la dimension globalisée où l'agroalimentaire se situe aujourd'hui, et qu'il y a là une courroie de transmission où les producteurs ont conservé ce droit de regard qui est un élément d'accrochage au territoire, d'accrochage au sol, et également qui participe à une vision française de ce qu'est l'alimentation, qui n'est pas tout à fait la même peut-être que d'autres pays au monde.
Alors je reste un peu sur le concept de développement soutenable, hein, dont vous avez rappelé les... Bon, vous avez entendu ce matin Jacques Arnoux, là, qui évoquait un peu, je dirais, lui comme ancien de l'agro aussi, un peu Enfin, c'est pour des raisons historiques, vous le savez bien, qui est un peu celui de la forêt. Pour autant, les organisations du monde agricole ont la totalité des productions du vivant dans leur espace de responsabilité. Est-ce que vous imaginez, vous, ancien président de la FNSEA, je sais bien qu'il y a une forêt domaniale qui est large, il y a des forêts de collectivités territoriales qui sont sous un statut particulier, il y a des forêts privées, etc., que peut-être, comme des pays nordiques, voire comme des pays d'Europe centrale, nous pourrions aussi amplifier ces coopérations entre tous les acteurs du vivant.
Bien sûr, c'est souhaitable, mais pour compléter ce qu'a dit Pierre-Olivier Drège sur l'aspect de solidarité et des mécanismes migrants qui ont été mis en place, je dirais que ça nécessite aussi une certaine stabilité dans l'économie. Et que si nous avons vécu pendant plus de 30 ans avec ces mécanismes de solidarité qui ont joué dans le cadre de l'agroalimentaire, l'élevage et les céréales et puis d'autres aspects qui se sont mis, quand on a une certaine stabilité des marchés, on arrive à s'y retrouver. La difficulté que nous avons, est-ce que ce sera durable si les mécanismes, il n'y a pas des mécanismes régulateurs au niveau des prix agricoles aujourd'hui ? On le voit bien, la relation entre les céréaliers et les animaliers aujourd'hui est quelque peu tendue, due au fait non pas que les données ont changé de relation entre les personnes, mais due à des marchés qui sont complètement avec une fluctuation très importante, qui sèment le trouble chez les producteurs animaliers, mais qui sèment le trouble, qui peuvent aussi semer le trouble chez les producteurs céréaliers. Alors ça ne veut pas dire qu'il nous faut avoir des prix qui soient complètement horizontaux, mais l'agriculture, pour sa raison alimentaire et d'aménagement du territoire, ne peut pas être une économie comme les autres qui vivent simplement avec les domaines du marché, avec les fluctuations. Et puis quand on en a, on en a. Quand on n'en a pas, on n'en a pas. Moi, je m'excuse pour l'alimentation. Quand on n'a pas à manger pendant 3 jours, c'est quand même plus difficile à soutenir que quand on n'a pas de téléphone portable pendant 3 semaines. Parce qu'au contraire, ça rend service. Donc je voulais dire que cet aspect-là. Sur d'autres solidarités avec d'autres secteurs, avant d'entamer agriculture et forêt, il faut déjà parfaire un peu agriculture toute seule, parce que c'est vrai que ça n'est pas deux secteurs complètement opposés. On avait beaucoup, beaucoup de relations entre la forêt et l'agriculture, mais Pierre-Olivier Drey, je connais mieux que moi, puisqu'il a été aussi dans le secteur très très engagé. C'est encore un peu compliqué, et dans l'esprit de certains, l'agriculture est quand même ceux qui déforestent, qui détruisent la forêt, alors que chacun sait aujourd'hui que la forêt, au contraire, augmente de surface chez nous. Mais par contre, il peut sans doute y avoir des complémentarités, mais ça n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et malheureusement, tous les petits agriculteurs, parce que nous avons beaucoup de propriétaires forestiers chez les agriculteurs, mais c'est des structurations tellement micronisées qu'elles n'ont pas d'existence véritablement économique.
Parce que dans les tensions que peut connaître le monde rural entre les nouveaux occupants de la ruralité, vous savez que c'est une vision globale un peu de tout le vivant qui s'exprime dans la forêt, dans la culture, dans l'élevage, qui s'exprime et qui parfois est source de conflits auxquels bon, il faut être attentif à résorber.